ce que je trouve merveilleux, et c'est la raison d'être de ce podcast, c'est le partage d'informations, le partage de connaissances et l'éducation en général, grâce aux outils qu'on a sur les réseaux sociaux, qui permettent justement à ce que, au lieu de pouvoir informer une personne à la fois, 10 personnes à la fois, 100 personnes à la fois, rappelle-moi combien tu as d'abonnés ?
Je crois que je suis à 43 000.
Voilà, 40 000 personnes à la fois. Bonjour et bienvenue dans Samuel Bilic Podcast. Aujourd'hui, on va faire un podcast psychologique. Et on a une invitée qui, justement, est spécialiste du domaine.
Voilà, tout simplement.
Donc, est-ce que tu pourrais te présenter, s'il te plaît ?
Alors, moi, c'est Sabrina Mokran Bouchaïb.
Ouais.
D'accord ? Donc, j'ai 43 ans, je suis psychologue clinicienne et coach, master coach en neurosciences. Je suis maman de 3 enfants et... Donc, professionnellement, je suis installée en tant que thérapeute et coach. Et en même temps, je suis aussi headhunter, donc ce qu'on appelle chasseur de tête. Donc voilà, j'ai une double casquette RH et thérapeute.
Excellent. Marhaba bek.
Aïchek, merci.
Donc aujourd'hui, on va essayer de parler justement de ton domaine, donc de la psychologie, du coach, du neurocoaching. Et... on va rentrer dans quelques autres détails par la suite. Donc, personnellement, je suis quelqu'un qui a toujours été intéressé par le côté psychologie, psychanalyse, psychiatrie, enfin, tout ce qui a en relation. Voilà. Monsieur Alain, à comment fonctionne notre cerveau?
Ouais. Ah, très bien.
Voilà. Qu'est-ce qui influence quoi, de quelle manière, etc. J'essaie de me documenter le plus possible, mais j'ai eu très, très peu de contact avec des professionnels du domaine.
Okay.
À part la mère d'une ex... qui est psychologue aussi.
D'accord.
En fait, voilà, c'est voilà. Fin.
C'est déjà YouTube.
Bon, YouTube, il y en a plein, par contre. Voilà, voilà. J'en ai vu des tonnes. Donc, j'aimerais vraiment en apprendre plus avec toi.
Alors, déjà, il faut savoir que psychologue, c'est une profession qui est réglementée. Donc, c'est un diplôme universitaire, c'est un bac plus 5. Et après, dans cette branche, il y a plusieurs spécialités. On a la psychologie clinique, l'orthophonie, donc tout ce qui est pour la rééducation du langage. Après, on a la psychologie industrielle, on l'appelait comme ça, mais c'est tout ce qui est attrait au monde du travail, l'ergonomie et tout ça. Et on a la psychologie, alors, ce qu'on appelle les sciences de l'éducation et la psychologie scolaire, donc qui est spécialisée un peu dans tout ce qui est attrait à l'éducation.
D'accord.
D'accord. Donc moi, je suis spécialisée en psychologie clinique.
D'accord.
Et aujourd'hui, je pense, parce que moi, je fais quand même partie de l'ancienne école. Et donc aujourd'hui, je crois qu'on appelle ça la psychologie de la santé ou quelque chose comme ça. En tout cas, c'est les nouvelles spécialités s'il y a des jeunes qui nous écoutent. Voilà. Donc un psychologue clinicien en tout cas, il intervient dans le domaine de la santé. Donc c'est le domaine de la santé mentale. Et encore là, il y a des spécialisations. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'une fois qu'on sort de la fac, donc c'est un cursus universitaire, on est psychologue, mais on n'est pas formé forcément en fait à la psychothérapie. Donc, ce qui est quand même un autre, j'ai envie de dire, niveau de formation, mais qui se fait vraiment de manière complètement parallèle à la formation universitaire.
Donc, je suppose qu'il faut pratiquer avec des praticiens, gens qui ont déjà donc, de l'expérience dans le domaine pour pouvoir... genre avoir quelqu'un qui vous accompagne sur ce chemin.
Alors là, tu touches un point central. Et d'ailleurs, je le dis depuis quelques temps. Je dis que si j'avais un pouvoir sur... je vais me faire détester après ça. Donc si j'avais un pouvoir sur l'attribution des diplômes des psys, donc que ce soit psychiatre ou psychologue, je ne donnerais aucun diplôme s'il n'y a pas de travail sur soi en profondeur. Parce qu'effectivement, on est formé à tout, à l'anatomie, à la psychologie, à la psychopathologie. Mais en vrai, l'appareil avec lequel on travaille, c'est nous-mêmes. Donc c'est notre appareil psychique. Et personne sur cette terre n'est clean à 100%, j'ai envie de dire. On a tous des noyaux pathologiques, on a des tendances comportementales, on a nos zones d'ombre. Et normalement, en tout cas, la pratique, moi, dans laquelle j'ai été supervisée, je le suis à aujourd'hui, c'est le coaching, qui est quand même une formation para-universitaire qui n'a rien à voir, ce n'est pas un diplôme réglementé, où voilà, on doit se faire accompagner et après, on est supervisé aussi. Mais malheureusement, en tant que psychologue, non. Donc, en tant que psychologue, on peut sortir de l'université et se lancer. Après, bon, il y a des stages, bien sûr, de validation, de cursus et tout. Mais dans la psychothérapie, donc quand on se forme, il faut savoir qu'il y a au moins 400 psychothérapies qui ont été recensées. Hein.
Thérapeute.
Thérapie, psychothérapie, donc genre de thérapie.
Ah, d'accord, ok.
Ah, oui. Bon, il y a les grandes écoles, un peu la gestalt, la psychanalyse, tout ce qui est thérapie cognitivo-comportementale. Ça, c'est des thérapies qui sont enseignées à l'université. Mais après, il y en a 300 et quelques. Donc, vraiment, il y a une panoplie. Et généralement, dans les thérapies, quand on se forme à un type de thérapie, il y a la pratique supervisée. Donc, il y a quand même un certain nombre d'heures de pratique. Et par la suite, on devient donc thérapeute. Ben, on pratiquera la thérapie en question.
Très bien. Voilà. Parfait. Alors, on a dit, justement... je consomme énormément de médias anglo-saxons, donc surtout américains, je suis anglais, je suis canadien. Wynne, on parle énormément de la santé mentale depuis les 10 dernières années.
Ouais.
C'est un sujet qui prend de plus en plus d'ampleur, traiter l'anxiété, surtout, surtout au niveau des États-Unis. Donc, c'est l'anxiété, c'est tous les problèmes d'une société très moderne où tellement tout va bien qu'on se crée quelque part de faux problèmes, bien que ce soit des vrais problèmes. Un gosse, quand il se fait mal la première fois, c'est la pire douleur qu'il a ressentie dans sa vie. Donc, il n'y a pas...
Il y a de la hiérarchisation de la douleur ou de la souffrance. Exactement. Chaque souffrance est légitime.
Et c'est encore plus compliqué quand il s'agit de souffrance mentale. Il n'y a pas... On ne voit pas de blessure, on ne voit pas de fracture, on ne voit rien. Donc, ça se passe à l'intérieur. Et on a tendance à garder pour soi. Et justement, ça commence à se développer de plus en plus, où de plus en plus de personnes disent... Voilà par quoi je suis passé, voilà mon expérience, etc. Et ça incite de plus en plus de gens à normaliser ça. Et justement, d'aller se faire traiter, de voir un psychologue, de se faire accompagner. Et c'est devenu maintenant très, très standard en Occident. Chez nous, c'est pas trop le cas.
Alors, oui, c'est pas trop le cas parce que, bon, tu l'as très bien dit, si c'est 10 ans ailleurs, donc chez nous, ça... Mais moi, j'ai envie de dire merci Covid-19.
Oui.
Parce qu'en fait, ce qui s'est passé, bon, déjà, il faut qu'on revienne un peu à la genèse de cet inconscient collectif, c'est que pour le commun des Algériens, aller voir le psy, ça veut dire soit je suis fou, soit je suis faible, parce qu'il y a la notion de... tu n'arrives pas à te débrouiller seul.
Ouais.
Et donc, c'est pas normal. Pour ceux, et surtout la phrase « c'est rien, c'est dans votre tête ». C'est comme si quand c'est dans la tête, ça pas de... Parce qu'on a longtemps, en fait, séparé le soma, donc le corps, de l'esprit. Et donc, quand c'est le corps, c'est important de le prendre en charge. Mais quand c'est la tête, c'est pas grave, ça passera tout seul. Donc ça, c'est une chose, malheureusement. Et puis après, ça a été assimilé à la... Voilà, à, je dirais, la faiblesse. Ça, c'est une chose. Et bon, après, il y a tout le panel des troubles, la honte, la culpabilité. Il faut savoir qu'on est quand même une société qui est extrêmement violente par rapport aux émotions, par rapport à l'expression de tout ça. Et donc, quand même, on est quand même des champions du déni et du refoulement.
Ouais.
Donc, c'est pour ça, moi, je dis aujourd'hui, sur les réseaux, je leur dis, celui qui travaille, le travail sur soi, c'est pour les courageux. C'est très facile de refouler, de nier, d'exagérer, parce qu'on peut tomber aussi dans l'hystérie et tout, et ce n'est pas forcément une façon c'est pas du tout le cas. D'ailleurs, c'est pour ça que c'est des scénarios qui se répètent. Et pour revenir à ta question, Samir, eh ben effectivement, la Covid-19, en fait, ce qu'elle a fait, c'est que, en fait, on avait tous des petits noyaux, mais comme on était enroulés dans une routine, il y avait des petites soupapes et tout, ça, voilà. En fait, on se maintenait. d'une certaine manière. Ben, arrive la pandémie, et qu'est-ce qui se passe? On perd nos repères, et là, tout a explosé. Ouais. Toute la structure psychique a été... Oui, pratiquement, elle s'est effondrée. Il y a voir que les deux premiers mois de la Covid-19, c'était affreux. Il y a eu, je pense, malheureusement, en fait, on n'a pas forcément des organismes qui font des statistiques en Algérie par rapport à la santé mentale.
On a d'autres problèmes.
J'espère vraiment que ça va venir, parce que vraiment, la santé mentale, c'est le cœur. Parce que quand on ne va pas bien, et quand on veut bien le cacher aussi, c'est qu'on développe des mécanismes de défense qui ne sont pas forcément écologiques.
Ni écologiques, ni sains.
Ni sains, exactement. Ben, on va tomber dans nos travers quelque part. Et donc, je te disais, par rapport à ça, donc, et les réseaux sociaux, parce que ça a permis aussi... Moi, aujourd'hui, je suis très contente quand je vois vraiment une vague de jeunes psys qui se lancent sur les réseaux et qui parlent de leur profession et tout, parce que et la demande, elle est là. Parce que le mal-être, je pense qu'on n'a jamais été aussi mal que ces 2-3 dernières années.
En fait, il y a un mélange entre l'exacerbation par rapport à la Covid, justement, ouais. Et l'autre partie, c'est que grâce aux réseaux sociaux, on voit plus ce qui existait. Donc on a l'impression qu'il y en a plus. C'est comme quand on voit aussi les drames dans le monde entier, les crimes, les meurtres, les guerres, etc. Mmh. On a l'impression que c'est foutu partout. Statistiquement, quand on va analyser le truc, non, en fait, on n'a jamais été aussi bien qu'on est aujourd'hui. C'est juste que le message est amplifié. On a beaucoup plus accès à l'information qui n'existait pas avant. Mmh. Pour la partie psychologique, par contre, je suis d'accord avec toi. Ça augmente parce qu'on en prend conscience et qu'on peut en parler.
C'est ça, c'est qu'on en prend conscience aussi et on a, avec la vulgarisation, par exemple, bon, je vais te donner un exemple, les parents toxiques, ça existe. Tu vois ce que je veux dire? Mais jusqu'à je sais pas, 5... Moi, par exemple, quand je reçois un patient pour la première fois, c'est pas le premier jour qu'il va s'autoriser à verbaliser des choses pas OK sur ses parents. Parce que, voilà, dans la religion, c'est OK, il n'y a pas de souci, il faut respecter et tout. Mais à un moment, il faut aussi que le petit enfant à l'intérieur puisse s'exprimer et dire ce que j'ai vécu, c'est pas OK, parce que ça peut exister. Et ça existe plus que...
Je sais pas, j'en ai connu plusieurs.
Voilà. Et donc, tu vois, l'idée, c'est qu'à un moment, quand on comprend que finalement, ça existe. Par exemple, je sais pas, quand on parle de lien d'attachement, on comprend que peut-être j'ai eu un lien d'attachement qui n'est pas OK avec... j'ai eu peut-être un parent soit hyper présent, donc étouffant, soit un parent absent. Mais si je ne comprends pas et je n'ai pas conscience du principe, je ne pourrais pas m'autoriser à dire « Ah, finalement, ce n'est pas OK ce que j'ai vécu dans mon enfance. » C'était un vrai trauma. C'est pas moi juste, parce qu'un enfant, en fait, il se sent coupable de tout. Donc, la vulgarisation a permis aussi à la personne d'avoir, enfin, aux personnes de manière générale, d'avoir des repères et de mettre des mots sur les mots de ce qui se passe à l'intérieur.
J'aime bien, parce que donc, depuis tout à l'heure, c'est en train de tourner dans ma tête le crime pensé. Donc, George Orwell, 1984, ils ont limité le nombre de mots qu'il y a dans le dictionnaire pour empêcher les gens de réfléchir à certains concepts. Donc, quand on ne sait pas de quoi on souffre et qu'on n'arrive pas à l'exprimer, forcément, ça ne peut pas sortir.
Ça ne sortira pas. Parce que, alors, le cerveau humain ne peut changer, améliorer, transformer que ce dont il a conscience.
Oui.
Et malheureusement, après, heureusement, parce que sinon ni toi ni moi on est là aujourd'hui, à 95% on fonctionne de manière inconsciente. Donc toi et moi, on est conscient que de 5% de ce qu'on est. D'accord. Et comme notre cerveau, il est super bien fait, et du coup, il a cette responsabilité de filtrer et d'emmagasiner des choses. Par contre, ces choses-là deviennent des lois. deviennent des chemins de pensée et tout, oui. Mais d'une manière inconsciente. Donc, voilà, moi, j'ai des personnes brillantes, c'est-à-dire, ce n'est même pas en lien avec la formation ou avec le niveau intellectuel. Moi, j'ai des personnes, mais c'est des sommités dans leur domaine. Quand je leur parle, par exemple, du cycle de la vie, donc les quatre phases par lesquelles un être humain peut passer en une journée ou dans un mois ou dans une semaine, ils nous disent, ah, donc j'ai le droit d'être dans le marasme. Ben oui, parce que en fait, personne ne nous a dit que on avait les quatre phases, qu'on pouvait faire ça dans une journée et dans nos différents domaines de vie que ça existait aussi. C'est comme quand tu commences à manger, avant de manger, t'es waouh super excité, tu es en émotion haute parce que waouh le plat il est là. Après, dès que tu commences un peu à te rassasier, tu commences à voir ah finalement c'était un peu plus salé. Après un moment, oh t'en peux plus, voilà. Et puis tu restes un petit peu et après peut-être tu prendras un dessert. Et ben c'est lancement, déclin, marasme, renouveau. Et ça on peut passer. Et si tu sais pas ça par exemple, bah tu pourras pas être bienveillant avec toi quand par exemple toi qui es dans la création, il y a des moments où tu as du mal à créer. Et alors si je crée, je dois être en sécurité. Par contre si je suis malveillant avec moi-même, si je suis jugeant, je suis très dur avec moi, eh ben, je ne pourrais pas créer, eh ben, là tu tomberas dans un cercle vicieux. Ouais. Donc déjà, rien que la connaissance nous permet déjà de faire ce qu'on appelle de la ventilation émotionnelle. De dire, ah ouais, finalement c'est ok, je peux me permettre de déprimer 2 jours sous la couette et après je vais reprendre. Mais si je ne me permets pas, eh ben, j'y vais jusqu'au jour où le corps il va me dire, hey Coco, c'est pas ok. Ouais. Tu vas te retrouver chez le médecin, tu vas te retrouver. Et après, le médecin, il trouve rien. Il va te dire, non, c'est dans ta tête.
Oui, effectivement, c'est dans ma tête et c'est ça le problème.
Et c'est ça, en fait. J'ai pas compris, c'est quoi. Qu'est-ce qui se passe dans ma tête?
Exact.
Voilà.
Et du coup, comment est-ce qu'on peut faire aujourd'hui? Enfin, je connais la réponse, mais je préfère que tu me la donnes. Comment on peut faire aujourd'hui pour vulgariser justement tout ça pour les Algériens?
Moi, je trouve que même si, par exemple... J'ai beaucoup peut-être à dire sur les réseaux, je ne suis pas du tout une experte, mais je trouve que par exemple on parle beaucoup d'addiction aux écrans, mais je trouve que les réseaux aujourd'hui, ils ont été d'une aide extraordinaire, parce que ça a permis à beaucoup de professions de se faire connaître et tout, mais... Des fois, par exemple, moi, je tombe dans ce travers, peut-être on a tendance, autant que, je dirais, professionnel de la santé mentale, peut-être à utiliser des termes un peu pompeux, enfin, bon, peu, mais en tout cas, c'est des termes techniques, et ce n'est pas forcément accessible au commun. Mais moi, je pense qu'il faut faire, voilà. Et il y aura toujours l'effet de foule. Donc, il y en aura un qui comprendra, qui va... Exactement. Il va simplifier, il va donner à l'autre. Je pense qu'il faut juste le faire.
Ouais.
Voilà, juste le faire. Le faire avec beaucoup d'humilité aussi, parce qu'on n'est pas des sachants. On n'est que des techniciens. Et voilà. Et moi, c'est ce que je pose l'intention, en tout cas chaque jour, de faire, que ce soit sur les réseaux ou dans mon cabinet. Il y a beaucoup de psychopédagogie.
Oui.
Voilà, parce que s'il n'y a pas cette connaissance de soi, on ne peut pas co-construire, que ce soit en relation thérapeutique ou en coaching ou autre chose.
Justement, c'est la réponse que j'attendais. Mmh. Et ce que tu fais, toi, et les jeunes que tu vois commencer aujourd'hui, justement, c'est ce que je trouve merveilleux et c'est la raison d'être de ce podcast. Mmh. C'est le partage d'informations, le partage de connaissances et l'éducation en général grâce aux outils qu'on a sur les réseaux sociaux qui permettent justement à ce que, au lieu de pouvoir informer une personne à la fois, 10 personnes à la fois, 100 personnes à la fois, rappelle-moi combien tu as d'abonnés ?
Je crois que je suis à 43 000.
Voilà, 40 000 personnes à la fois. Mmh. Ce que j'essaie de rappeler aux gens en général.
On a du mal à, moi personnellement,
à quantifier.
J'ai du mal à quantifier.
C'est très simple. Je vais aller comme ça en juillet.
Non, je ne sais pas.
À peu près 50 000 personnes.
Ok.
Donc, t'as marre avec tes abonnés, Saint-Juillet, Mammar. Pour te donner une image que tu peux, visualiser.
Matérialiser l'image
c'est
dans
ça.
Ma tête.
Donc, toi, avec tes 40 000, quelqu'un d'autre avec 10 000, quelqu'un d'autre avec 5 000, ça fait beaucoup au bout d'un moment. Donc, j'ai vu des médecins qui ont dans les... Ousmane Adaxid, il a presque 1 million. Je ne me rappelle plus, il est entre ici et la France.
Okay.
Bref. un million de personnes. Tu te rends compte, c'est quoi un million de personnes? Tu as l'impression que c'est
chaque
normal.
Chaque personne, elle aura de l'impact sur 7-8 personnes.
Exactement. Minimum. Parce que ça, les personnes que tu as influencées, par exemple, ma femme, elle parle de ça. Ouais. Elle partage avec les gens. Elle oriente les gens vers toi, vers de la documentation, vers d'autres trucs, et ainsi de suite. Chaque personne que tu arrives à toucher pourra influencer d'autres personnes, et ça fait un effet boule de neige, un effet de fractal, où ça va aller dans tous les sens, et ça va s'amplifier, et c'est comme ça qu'on arrive à avancer. Okay. Justement, les plus grands... On va dire les plus grands soucis qu'on sent en général par rapport aux réseaux sociaux. Oui, on est trop par rapport aux écrans et c'est toxique et ça fait machin. Ça, c'est un aspect. Mmh. Un réseau social, le problème n'est pas dans le réseau social.
Tout à fait. Comment je l'utilise ?
C'est ça, c'est un outil. C'est un marteau. Je peux construire avec, je peux casser avec, je peux tuer avec. Mmh. Donc, pareil avec les réseaux sociaux. Qu'est-ce que tu veux en faire ? Moi, si tu vois mes timelines sur les différents réseaux sociaux, je ne comprends pas où est-ce que les gens trouvent ces trucs toxiques. Parce que dès que je vois un truc qui ne me plaît pas, un truc, je zappe. L'algorithme ne me montre plus ce genre de truc. Il comprend que moi, j'en ai rien à foutre. Mmh. Tout comme le foot. J'en ai rien à foutre du foot. Mais
exactement. On est deux alors.
Exactement. Voilà. On peut influencer ce qu'on veut voir. Ça a ses avantages, ça a aussi ses inconvénients. Le fait de voir que des trucs que tu veux voir fait que tu restes dans ta bulle aussi.
Ouais.
Et tu ne découvres pas les avis des autres, ni la diversité, mais ça, c'est un autre problème.
Je suis d'accord avec toi.
Mais justement, si on arrive à instruire les gens sur quelques domaines de base, par exemple, je ne sais plus comment ça se dit en français, mais c'est media literacy. Donc, literacy, savoir lire, mais je ne sais pas comment dire ça en français. Okay. Bref, mais savoir comment consommer les médias, avoir un œil critique qui fait
ça. L'écologie média, sa propre écologie, en fait, par rapport à l'utilisation des médias.
C'est plus apprendre, literacy, c'est comme si apprendre à lire.
À lire, voilà.
Mais par rapport aux médias, comment consommer les médias de manière proactive et de manière... C'était quoi le terme déjà que j'utilisais?
Lire.
Non. Analyser. Critique.
Critique.
De manière critique. Mmh. C'est-à-dire qu'on ne prend pas l'information comme elle est. On se documente, on check. Pourquoi? Qui fait ça? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Et voir, avis 1, quel est le contre-avis? Et comparer, voir. La réponse n'est jamais claire, n'est jamais basique. Et justement, ça, je suppose que toi, tu fais ça par rapport à ton domaine pour pouvoir savoir quelles sont les meilleures pratiques. Et il y a celui-là qui dit ça, c'est nouveau. OK, mais quand c'est nouveau, il faut se méfier un peu. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a vu, qui dit autre chose par rapport à ça? Et ainsi de suite. Donc, si on arrive à inculquer ça aux jeunes aujourd'hui pour qu'ils puissent justement évoluer dans le monde de médias dans lequel on vit, où tout se consomme à travers un téléphone.
Tout à fait.
Comment faire pour qu'ils puissent naviguer sainement autour de ça et trouver les informations nécessaires pour pouvoir s'enrichir et devenir intellectuellement, spirituellement ou même techniquement proficient.
Oui, ça c'est... Alors c'est complètement ça. En plus, moi, c'est... quand tu m'as parlé des... comment en fait on influence, c'est vrai que les jeunes, je trouve qu'ils sont beaucoup plus outillés que nous. Enfin, je suis une quadra quand même. Acceptons-le. Donc, ils sont beaucoup plus agiles, j'ai envie de dire, avec ce qui se passe sur les réseaux et tout. Mais si j'avais une fierté aujourd'hui à exprimer, c'est que des fois, je reçois des messages de jeunes, de femmes, 30, 40 ans, et qui me dit depuis quelques... Et en fait, avant, par exemple, elle me dit, voilà, j'ai des problèmes avec ma mère, elle ne me comprend pas, mon père est ceci et cela. Et après quelques mois, elle me dit, tu sais, Sabrina, j'ai converti ma mère, elle te suit maintenant, et elle a vu ton live, et elle m'a envoyé un message en me disant, je suis désolée, ce que j'ai fait, elle m'écoute plus. Et je me dis, en fait, il n'y a pas d'âge. Pour se comprendre, moi je trouve que c'est dommage de mourir, de quitter cette vie et de ne pas se connecter à son âme. Ouais. Parce que moi-même, ma grand-mère qui a 87 ou 88 ans, quand je la vois, je vois son enfant intérieur. Je vois la petite fille en elle, la petite fille blessée qui n'a pas, qui n'a pas eu ce qu'elle voulait. Et comment aujourd'hui, il y a du chantage émotionnel avec mes tantes. Bon, moi, j'ai perdu ma maman, mais voilà. Et donc, je me dis, c'est dommage quand même de quitter cette vie et de ne pas comprendre qu'à l'intérieur de nous, il y a des parties de nous blessées, exilées, résilientes. Et ça, je pense que c'était mes plus belles connexions avec ces personnes-là, parce que c'est des vraies connexions énergétiques. Quand elle me dit, tu sais, maintenant, maman, elle te suit et elle comprend et elle me dit « Ah oui, donc ça, c'est ça. » Et même par rapport à elle et sa propre vie, oui, ça l'impacte. Et je trouve que ça agit à 360. Et c'est vrai que des fois, on ne se rend pas compte, mais je pense qu'il y a quelque chose, il y a un égrégore porteur et finalement, on le ressent. Peut-être qu'on ne le conscientise pas, mais on ressent, mais ça fait du bien.
Mais c'est ça, en fait. Pour revenir encore, parce que tu vas parler du côté psycho, je vais parler un peu du côté réseaux sociaux. Okay. Donc, le genre de message dont tu parles, j'en reçois aussi par rapport à des trucs beaucoup moins importants. Moi, c'est par rapport au marketing, etc.
Hein.
Non, non, sérieusement, je préfère la santé mentale que du marketing.
Pas de hiérarchie, tout est important.
quand même. Si. La santé en général, la santé mentale, ça passe un peu avant les autres. Si ça ne va pas, le reste ne va pas non plus.
D'accord avec toi.
Donc, parce que le marketing, franchement, on peut vivre sans.
Ouais.
Voilà. La santé mentale et la santé physique, non. Littéralement.
Non.
Littéralement, on ne peut pas vivre avec. C'est plutôt ça. Bref, mais du coup, donc, les gens qui viennent et qui me remercient, même s'il y en a 2, 3, 10, moi j'ai après 4000, 5000 abonnés, un truc comme ça, si j'en ai 2, 3, 10, c'est déjà 2, 3, 10 personnes que j'ai touchées et que j'ai pu aider. Ouais. Les gens se focalisent, en anglais, se focalisent énormément. Ah, c'est pour moi, je me corrige. Donc, se focalise énormément sur l'aspect négatif.
Ouais.
Donc, dès qu'il y a un mauvais commentaire, ah, c'est la dépression, etc. Ça, c'est normal, c'est notre esprit qui fonctionne de cette manière. Surtout, c'est quelqu'un touche à un endroit sensible qui nous touche vraiment et c'est un truc qu'on croit vrai dans notre tête. Donc, on voit que ça et on oublie les 10 000 autres qui disent que des trucs positifs sur toi. Donc, c'est l'un des trucs sur lesquels je pense que toi, tu pourrais aider justement par rapport à ces messages-là. Mmh. Et surtout pour des personnes qui ont beaucoup de followers comme toi, comme les influenceurs, etc.
Mmh.
Donc ça, je pense que c'est l'un des trucs aussi, à côté de la literacy, la dangla de Hammurabi, qui devrait être très très important, parce que savoir gérer les attaques d'inconnus sur Internet, surtout que quand on voit ça de manière pragmatique et objective, il n'y en a pas tellement.
Mmh.
En termes de pourcentage, c'est ridicule. C'est juste qu'ils sont très bruyants. Mmh. Et dès qu'il y en a un qui se lâche, il y en a d'autres qui suivent.
Et ça, en fait, notre cerveau, il fonctionne de cette façon. C'est un commentaire positif, plutôt un commentaire négatif pour 9 positifs. Donc si dans ma journée, j'ai reçu 10 commentaires positifs et tout allait bien et tout, et si j'en ai reçu qu'un seul négatif, et ben c'est sur ça que mon cerveau aura tendance à ruminer ça.
Ouais.
C'est un peu lié à notre instinct de survie, et c'est OK. Bon, c'est un réflexe archaïque de notre cerveau reptilien.
Ouais,
OK, marhababé, c'est très bien.
Ouais.
Sauf que là, je pense que c'est très... C'est pour ça que je parlais au début, je te disais, ça serait intéressant que les personnes travaillent sur elles, parce que c'est aussi une question de confiance en soi, d'estime de soi surtout, parce que, moi j'ai mon mentor qui me dit toujours, quand tu reçois une critique, positionne-toi en méta et dis-toi que la personne est en souffrance. Parce que quand tu reçois la critique, c'est elle qui est en souffrance. Et c'est qu'elle est dans une zone d'insécurité, donc elle est insécure, et pour se réguler, enfin, une tentative de régulation, donc elle va t'envoyer le cadeau mal emballé. Pourquoi je dis cadeau mal emballé? Parce que si tu as assez de recul sur toi et tout, donc tu accuseras le truc, comme tu as dit, ça va toucher quelque chose et c'est OK, c'est important de rentrer en lien avec ton émotion, qu'elle soit de la colère ou de la tristesse, ou ça dépend. Et puis à partir de là, se dissocier. Vas-y.
Justement, c'est trompé.
Déjà ?
Oui. Ça passe
du temps. Ah ouais, grave. Si je me dissocie, je me dis, je lui restitue. Et c'est tout. Bien sûr, il faut gérer la charge émotionnelle. Voilà, il y a 36 000 manières de le faire. Bouger le corps, faire une séance de EFT, aller courir, faire du vélo ou tout simplement danser chez soi. Mais avoir cette conscience que je suis responsable de ce qui se passe à l'intérieur de moi.
Exactement. C'est toi qui donnes de la valeur à ce que tu perçois.
Exactement. Voilà.
C'est ce qui vient de l'extérieur. C'est moi qui le valide. Est-ce que La critique, je l'ai acceptée. Donc, si je l'ai acceptée, je la laisse faire son petit chemin. Après, ça ne veut pas dire que des fois, il ne faut pas remettre des personnes à leur place. Mais après, il faut évaluer. Est-ce que c'est écologique pour moi d'y mettre de l'énergie ? Parce que là où tu mets ton attention, ira ton énergie. Donc, si c'est quelque chose qui est constructif, qui va t'apporter quelque chose, ok, d'accord, mais c'est bien. Mais si vraiment ça t'épuise, donc ça va devenir un vampire énergétique et tu vas passer 3 jours à être alité, dégoûté, aucune envie, te sentir en insécurité, c'est important d'aller travailler son estime de soi et comprendre un peu comment notre corps fonctionne, comment notre cerveau fonctionne, comment notre psyché, nos défenses, comprendre ses blessures, parce que des fois, ça vient taper dans nos blessures. Exactement. Narcissiques. Ah oui, mais généralement, c'est là où... De toute façon, on a tous nos blessures, nos failles, et c'est pour ça que la connaissance de ça peut tout de suite nous remettre sur le... J'ai envie de dire sur le vélo, parce que quand tu connais pas tes blessures, tu rentres en mode automatique, et tu rentres dans la résistance, dans... Mais quand tu sais que, par exemple, bon, toi, tu as quand même une tendance à être sensible, bon, si jamais tu as une blessure de l'humiliation, tu vas être sensible à la critique. Donc, directement, tu vas te positionner en parent bienveillant avec toi-même. Tu vas... Parce que quelqu'un, par exemple, qui a une blessure de l'humiliation, quand il reçoit une critique, il va directement s'auto-flageller. Même s'il va montrer, il peut avoir un comportement externe différent, mais voilà pourquoi après il va être apathique, parce qu'il est dans l'autoflagellation, j'aurais pas dû, alors que voilà. Donc la connaissance de soi est un super outil pour cheminer en tout cas dans ce monde.
Ouais, et... C'est pas très évident pour la majorité des gens de se connaître.
Ah non, mais c'est un parcours, hein. C'est un vrai parcours et ça demande de l'engagement, ça demande de l'énergie, ça demande de la force et du courage. Ouais. Parce qu'on n'est pas que des gentils à l'intérieur. En fait, la polarité, on a la part d'ombre et la part de lumière.
Yes.
Et donc, à un moment, c'est très inconfortable d'aller voir que j'ai une partie de moi menteuse, chippie, pas propre. Et c'est exactement pas le persona social. Gustav Jung, il parle du persona. En fait, c'est le masque social que toi et moi, on met pour être accepté, pour être validé comme enfant, comme époux, comme épouse, et ainsi de suite. Comme membre de cette... Exactement. Voilà. Et surtout, c'est qu'on a besoin d'appartenir. Le besoin d'appartenance, il est vital chez l'être humain, parce qu'il est directement lié à l'homme préhistorique, l'homo sapiens, parce que si, à cette époque-là, si tu n'appartiens pas, tu sors, tu te fais bouffer.
C'est ça.
Donc, si tu appartiens, il y a le groupe qui va te protéger. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, quand on se fait lyncher, ou on pense qu'on va être réjecté de la sphère,
exactement,
de la société.
Sauf que ça a tellement changé.
Exactement.
Que ces réflexes archaïques ne sont plus d'actualité.
D'où
pas avec le même poids.
Non, mais symboliquement, c'est exactement la même chose.
Ta tribu, c'est pas Internet.
Non, c'est pas du tout. Et puis c'est pour ça que se connaître et avoir cette capacité de se dissocier, d'avoir cette position méta, de comprendre ce qui se passe en soi, la météo interne. Ok, ouais. C'est quoi mes émotions? Qu'est-ce qui se passe?
Tu as adoré le podcast de Joe Rogan.
Ok. Bah,
très très souvent, plein de scientifiques viennent parler et il y a toujours ce sujet qui revient, mais appliqué à tout et n'importe quoi.
Oui.
Monsieur,
pas c'est que. Ça, ouais. Que c'est l'humain. Parce que c'est l'humain. En fait, tu sais, moi je fais, j'accompagne aussi les professionnels parce que autant que comme ça fait 20 ans que je suis dans les ressources humaines, donc bientôt je vais faire mes 20 ans. Donc moi, dans ma première carrière, donc même si j'étais psychologue, mais j'ai intégré une grande multinationale où je faisais du recrutement, de l'évaluation des compétences, et donc j'ai cheminé jusqu'à aujourd'hui. Donc je fais de l'assessment center, donc c'est des journées, 2 jours d'assessment avec plein de tests, des mises en situation et tout. C'est très anglo-saxon comme méthode d'évaluation. Et donc après, ça c'était la première partie jusqu'en 2017. D'accord. Après, bon, il y a eu un événement dans ma vie, donc j'ai perdu ma maman d'un AVC, donc d'une manière très subite. Et c'est à partir de là où a commencé mon deuxième parcours de résilience, où je me suis formée en neurosciences, donc le coaching en neurosciences. Et donc aujourd'hui, j'accompagne des professionnels. Mmh. D'accord ? Et donc, c'est des multinationales, c'est des cadres, c'est des top managers. Sauf que, en vrai, moi, je leur dis toujours, il n'y a pas de coaching de performance. Il n'y a que du coaching de l'être. Mmh. Tu peux mettre tout ce que tu veux. Oui, je veux travailler du leadership, je veux travailler de la, je sais pas, l'orientation résultat. Tu peux. Mais tout ça, si tu ne vas pas déjà au niveau de l'être, si la personne n'a pas identifié ses peurs, ses blessures, tout ce qui est de l'ordre du persona social, donc les mécanismes de défense, ses drivers, ses tendances comportementales, bah, tu peux dire tout ce que tu veux en termes de coaching. Ok, tu peux lui donner, bon, je peux te donner ça, je vais te dire, voilà, tu apprends ça par cœur et tu seras un super coach, tu seras un super leader. Tu peux le faire, mais après, pour mettre en place, bah, y a ta réalité qui va te rattraper, il y a ta personnalité, tu es quelqu'un qui a, par exemple, qui a besoin d'être en sécurité pour pouvoir créer. Et la sécurité, quand je dis sécurité, c'est matériel, hein. Bah, c'est pas le gars à qui tu vas dire ok, aujourd'hui je vais te demander de tenter ça, tu vas mettre des limites, tu dois, pour être un bon leader, tu dois mettre des limites de cette façon. Il pourra pas, il sera inhibé par son cerveau reptilien, parce qu'il doit déjà comprendre pourquoi pourquoi il ne se sent pas en sécurité. Parce que des fois c'est de l'ordre de la perception. Quand il décortiquera très bien comment lui il fonctionne, là il pourra mettre voilà, le truc de leadership en pratique. Donc finalement, parce que quand tu me disais ce podcast va être intéressant, même si tu vas même chez les grands présidents, là où tu veux, tout le monde a travaillé sur lui. Parce que quand ils se comprennent, ou pas, après, bon, je parle d'eux, hein, je parle de là-bas, ils ont tous des mentors. Hein. Les plus, j'ai envie de dire, les plus... leaders, les plus, tu vois, quand on parle d'Obama et tout,
les grands,
ils sont très bien,
ou autre,
ou grand, voilà, on va dire, mais la connaissance de soi, c'est la clé.
Exact.
C'est la clé.
C'est les fondations. Alors, il y a les fondations du corps physique et les fondations mentales. Exactement. Donc, si tu as des fondations solides où tu te connais bien, tu sais quelles sont tes forces, quelles sont tes faiblesses, tu peux tout maximiser derrière.
Complètement. Et il y a un truc aussi que j'aime bien. En entreprise, on a tendance à aller taper dans ce qui ne va pas pour le renforcer. Mmh, alors que des fois, il faut renforcer ce qui va bien. Exactement. Et ça, comment on le fait en accompagnement, c'est que tu renforces l'estime de soi. Mmh. Mais tu ne peux pas aller lui demander de l'énergie pour qu'il travaille ce qui est affaibli si tu renforces pas la structure, parce que c'est très énergivore d'aller taper dans ce qui va pas, dans les failles, dans les blessures. Donc renforce-le, qu'il puisse se comprendre déjà. Comme ça, il sait, il a sa propre télécommande.
Ouais.
Il sait que lui, par exemple, si son boss lui dit pas bonjour le dimanche, il se dit, ah, s'il est en insécurité, il se dit, je vais me faire virer. Bah, il faut déjà qu'il comprenne que, tu sais, des fois, le boss, il te voit pas. Hein. C'est que juste, il s'est bagarré avec sa femme et il est venu du mauvais pied, c'est tout. Donc, et même si le boss ne te dit pas bonjour, récupère ta confiance en toi. Tu sais que tu as fait du bon boulot et puis au pire, tu survivras.
Exact.
Voilà.
Ouais. Les piliers que je vois personnellement, la confiance en soi, number one de très très loin.
Complètement.
Il faut se connaître. Sinon, c'est comme si je te donnais une voiture et tu n'as jamais conduit ta vie. Tu ne sais pas comment ça avance, comment ça recule, comment ça s'arrête, comment ça tourne. Voilà, tu ne sais pas. Donc, tu ne risques pas d'aller très loin, tu risques d'avoir des accidents, tout.
Tu risques d'avoir des dégâts quand même.
Exact. Donc, le deuxième truc, c'est, tu as touché à ça tout à l'heure, c'est l'empathie. Donc, savoir se mettre à la place de l'autre pour savoir pourquoi est-ce que ça vient. Quelqu'un de négatif, effectivement, c'est parce que lui ne va pas bien en général. Comme tu disais tout à l'heure, donc, quelqu'un qui a eu une mauvaise journée, parce qu'on s'imagine tous comme étant le protagoniste de notre histoire. Sauf que, en fait, non, on est tous des protagonistes dans notre propre histoire, mais...
C'est ça.
On est tous des NPC, t'as les jeux avec le prochain... Donc, et du coup, il faut imaginer que cette personne a une vie à côté et que dans sa vie, ça peut aller bien, ça peut aller mal. En général, ça va mal,
oui, plus que bien. La plupart du temps, ouais. Même on a des challenges.
Hein. C'est ça. Donc, mais c'est ça la vie, c'est justement surmonter ces challenges. Ouais. C'est les courts moments de joie où on a pu faire quelque chose de bien qui fait qu'on apprécie de plus la vie. Mais s'il n'y a pas de challenge, ça fait une
c'est
vie...
C'est monotone.
C'est hautement
déprimant. On va tous se suicider.
Déprimant. Déprimant, merci. J'avais que des précis dans la tête. Non, c'est pas comme ça que ça passe. Donc, c'est hautement déprimant.
Déprimant, oui.
Voilà, et du coup, on se retrouve à avoir des problèmes où on va se créer de faux problèmes pour justement pouvoir les surmonter techniquement, mais on ne sait pas le faire non plus.
Non.
Parce qu'on ne se connaît pas.
Non, on ne se connaît pas. Parce que ça s'appelle aussi les distorsions.
Ouais. En fait, on a des filtres mentaux. C'est les distorsions cognitives, c'est genre, je ne sais pas, tu t'es levé le matin, ta roue est crevée, c'est une journée maussade. Non, c'est juste ta roue qui est crevée. Mais parce que tu as mis ça en tête, eh ben, tu as raison, ta journée va être catastrophique. Les généralisations, c'est mortel. Les lectures de pensée, ah ouais. Il a dit ça, c'est clair que... Et après, on part dans des délires. Et ça, quand on comprend nos propres schémas, eh ben, ça nous permet de cheminer avec facilité, oui. Avec un peu plus d'aisance en tout cas. Et on sait où on veut y aller.
C'est ça. Bref, je voudrais sauter au deuxième sujet. Comme on a parlé de comment vulgariser un peu la psychologie en Algérie... Et... C'est sur de bonnes roues, là, tout de suite. Mmh. Le deuxième truc, on a touché un petit peu à la formation des psychologues.
Oui.
Et maintenant, justement, disons que c'est bon, je me suis documenté, je sais que je veux faire de l'introspection, j'ai commencé tout seul, mais je ne sais pas trop comment faire. Mmh. Comment est-ce que moi, en tant que personne, moi ou une personne lambda, peut faire pour choisir son psychologue?
Ça, c'est une excellente question. Alors, en fait, la réponse est très simple. Mmh. Tu vas tester.
Ouais. J'avais peur que ce soit ça la réponse.
Eh ben, malheureusement. Et tu sais, c'est probablement à je sais pas combien de pourcentage, mais assez élevé, que c'est pas le premier qui va te convenir. Ben, tout simplement parce que trouver un bon psy, c'est comme trouver l'amour. Parce qu'en fait, c'est une rencontre humaine. C'est un psy ne peut pas être bon pour tout le monde. C'est impossible. Il y a un pilier très important qu'on appelle l'alliance thérapeutique. Mmh. Et l'alliance thérapeutique, c'est quelque chose qu'on ne peut ni modéliser, ni... ça se passe entre la personne, les deux personnes. Ça veut dire que je peux être excellente dans mon domaine, mais tu viens me voir, à la sortie, tu te dis « never ever ». Je ne peux pas. Mmh. Il y a ton jumeau, bah, si tu avais un jumeau par exemple, il peut venir et dire « waouh ». C'est OK.
Merci,
c'est bon, je veux travailler avec elle.
Ouais.
Moi, si j'ai un conseil à donner, parce que je reçois beaucoup ce genre de, c'est-à-dire de remarques, il faut savoir que, bon, c'est vrai qu'actuellement, moi, je ne prends plus de personnes parce que je n'ai pas... C'est bon ?
Non, c'est bon, je n'ai pas lancé le coup.
OK.
Non, mais ça va, on est à 18 minutes, donc je vais lancer pour que...
Il reste 12 minutes. Voilà. Donc, je te disais, par exemple, des fois, Ah non, mais on n'a rien fait. Hein. Bah, si tu n'en as pas vu 7, 8, tu n'es pas encore. Tu peux trouver hein, pendant les premiers, mais c'est très important. Il n'y a aucune personne qui peut... Après, elles me disent, est-ce que tu la recommandes? Je dis, je peux la recommander par rapport à une formation, à une légitimité professionnelle, mais après, tu es la seule personne qui peut savoir si cette psy va te convenir ou pas. Et si... à la première séance, voire la deuxième séance, tu n'as plus envie, eh ben n'y va pas. Change de psy. Mais ça ne doit pas être une raison pour ne plus aller voir le psy, parce que tu en as vu un et ça n'a pas fonctionné.
Tu ne peux pas juger...
Non.
Tu ne peux pas bâtir ton jugement justement que sur ce peu d'expérience.
Non. Un psy travaille avec sa personnalité, avec son appareil psychique, donc il ne peut pas convenir à tout le monde. Donc si vous voulez vraiment trouver le bon psy, testez.
Ouais.
Jusqu'à ce que ça prenne et à partir de là, dérouler.
Qu'est-ce que tu penses des offres de psychologie en ligne ?
Alors, ça dépend. Si c'est de la psychologie, j'ai envie de dire en distanciel, ça veut dire que, voilà, toi et moi, on a une séance, mais je suis là, présente. Et on... Franchement, merci Covid-19, parce que moi, par exemple, aujourd'hui, ça me permet d'accompagner de la diaspora au Canada, aux États-Unis, en Suisse, en France, et c'est extraordinaire, parce que... Malheureusement, c'est vrai qu'ils sont dans des pays où il y a beaucoup de psychothérapeutes et tout, mais il y a quelque chose de très important à comprendre, c'est l'élément socio-culturel. Ouais. Donc un psy qui n'est pas de ta culture, à un moment dans la thérapie, ça va coincer. Donc on va faire compartimenter peut-être des problématiques. On peut travailler sur un trauma de manière isolée, mais si on veut faire de l'holistique, s'il n'est pas capable de comprendre que, je ne sais pas, moi, vendredi, si tu ne fais pas tchurtchoura, juste que tu ne fais aller, pour elle, une Française, tu dis, mais c'est quoi le délire? Dans quel monde vous vivez? Donc, ça marche très bien. On peut faire même de l'hypnose à distance et tout. Maintenant, les offres en ligne, ça veut dire... j'achète une promesse d'accompagnement, mais oui, j'ai pas l'interaction avec le psy. Là, franchement, ça peut être de l'information, de la formation, mais pas forcément un travail sur soi, parce que pour travailler sur soi, il faut que ce qu'on appelle le principe de l'altérité. Je dois voir l'autre à côté de, c'est-à-dire en face.
Ah, l'altérité comme dans l'alter ego.
Ah voilà, l'altérité, c'est toi et moi. Et en fait, le psy, il va recevoir et en tant que technicien, il va te renvoyer quelque chose. Okay. Et c'est là où ça se passe. Donc voilà.
Très bien. Donc, on sait maintenant comment choisir un psy. On doit en voir plusieurs. C'est comme les princes et les crapauds.
Voilà. Tout simplement.
Parfait. Alors. Très bien. Donc, psychologie, je pense qu'on a fait un bon tour, voilà, un overview du truc. Maintenant, l'autre truc que tu fais, donc, dont tu as parlé, c'est le neurocoaching.
Ouais.
C'est quoi ?
Alors, le neurocoaching, alors moi, en fait, pourquoi c'est neurocoach ? Parce que je fais de l'entraînement cérébral, donc qui est quand même, c'est ce qu'on appelle le neurofeedback dynamique. Et c'est avec une machine. Donc, c'est une méthode qui a été créée, ça fait maintenant 50 ans, aux USA. Au départ, c'était pour les vétérans du Vietnam. Donc, grâce à une machine, donc un logiciel, un amplificateur et tout, on vient donner de l'information au cerveau pour qu'il s'autorégule. D'accord ? Donc, ça, c'est une pratique.
Pardon.
Vas-y.
Allô ? Allô, oui ? Oui. Oui. Le mien est sur ma femme, oui. Très bien. Donc, on passera demain, Inch'Allah.
Par exemple, si je suis une personne hyper stressée, à un moment, je vais devenir comme si c'est ma personnalité. Mmh. Et donc ça, mon cerveau, il n'a pas désappris à être moins stressé, on va dire. Donc ça, c'est le neurofeedback dynamique. Mais en parallèle, je me suis formée au coaching en neurosciences appliquées. Donc en fait, les neurosciences aujourd'hui, elles ont super, super bien évolué. Et donc, il y a une école à Paris qui forme, donc sur la base des dernières études en neurosciences, donc comment accompagner des personnes avec l'outil du coaching. Alors, tu vas me dire, c'est quoi la différence entre le coaching, la psychologie, la thérapie ? En fait, le coaching, c'est tout simplement, on fixe un objectif, on part d'un point A vers un point B. Donc, c'est un objectif qui est là. Et le coach, il est vraiment dans une posture d'accompagnateur et surtout pas de conseiller. Donc, en tant que coach, moi, mon outil, c'est le questionnement, c'est la maïeutique. Donc, poser des questions et on parlait de l'altérité, c'est de permettre à la personne de conscientiser des choses et de décider des actions qui vont être mises en place. Bien sûr, il y a tout un travail en profondeur parce que ça passe par le travail des valeurs, des peurs, des croyances limitantes, de beaucoup de choses. Voilà.
Donc, j'ai une question qui est à côté, parce que quand tu m'as dit c'est quoi la relation, alors la différence entre, c'est quoi la différence entre la psychologie et la psychanalyse ?
D'accord.
C'est un truc qui a toujours trotté dans ma tête.
D'accord. Bah, merci pour la question. En fait, la psychanalyse, c'est une école de la psychologie.
D'accord.
Parce que la psychologie, c'est un peu toute la science en question. Mmh. Et à l'intérieur, il y a la psychanalyse qui est l'école de psychothérapie qui a été fondée par Freud.
D'accord. Très bien.
Voilà.
La connexion vient de se faire dans mon cerveau. Ding.
Voilà. Donc, c'est ça. Par exemple, après, on va trouver la Gestalt. Mmh. On va trouver les écoles humanistes. En tout cas, c'est une école de la psychologie.
D'accord.
D'accord.
Très bien.
La psychosomatique de Pierre Marty, donc qui est aussi une école. Par exemple, il y a aujourd'hui tout ce qui est les comportementalistes, la psychologie comportementaliste. Mmh. Donc, c'est une école. Voilà. C'est comme, par exemple, je ne sais pas, dans la pédiatrie, on va avoir 36 000 courants thérapeutiques et tout. Voilà. Mais la psychologie, la psychanalyse fait partie de la psychologie.
Pardon, de différencier le madhab.
Le madhab, exactement. Le salafi ou...
Exactement. Très bien. Donc, parfait. Donc, je pense avoir une idée beaucoup plus claire maintenant, pas vraiment compris tout le truc, mais voilà, c'est beaucoup plus clair que...
Wow.
Voilà. J'espère que pour vous aussi, si vous n'avez pas compris, vous laissez des commentaires, je lui envoie, parce que moi, si je vous réponds, ça ne va pas être bon. très bien, donc le neurocoaching, donc, entre ce que tu m'as dit et ce que j'ai appris à travers ce que, la documentation que j'ai lue et ce que ma femme m'a raconté de ce que tu lui as fait,
d'accord.
C'est très bien, les réponses sont positives.
Super.
Donc, maintenant, je vais passer à l'autre question. Donc, tu as parlé aussi d'hypnose.
Mm.
Donc, je sais, comment dire, pertinemment, que ce que je vois à la télé, ce qui est vendu comme hypnose,
ouais,
te fait faire des trucs et tout,
exact,
tout ça, c'est du gros n'importe quoi.
Ouais.
C'est, voilà, on n'est pas aussi influençable que ça. C'est surtout pas...
On n'est pas du tout influençable comme ça.
Voilà, et surtout pas dans ce genre de...
Tout à fait.
Comment dire, de scénario, on va dire, d'instance. Mais, par contre, l'hypnose, c'est réel.
Tout à fait.
Mais à quel point c'est réel? Comment est-ce que tu pourrais définir ça d'une manière simple? Pour que soit un peu mettre les gens en confiance et leur expliquer qu'est-ce que c'est.
Très bien. Bah, écoute, merci de poser cette question parce que je pense qu'on va casser des mythes aujourd'hui.
Oui.
Très bien. Alors, en fait, il faut savoir que l'hypnose, c'est un état naturel de l'être humain. Chaque 90 minutes, tu rentres naturellement dans un état d'hypnose.
Okay.
D'accord ? Donc, c'est une capacité du cerveau humain. OK ? Un état d'hypnose, on appelle ça aussi aujourd'hui les états modifiés de conscience.
Mmh.
D'accord ? C'est quand, par exemple, tu vois, tu regardes la télé, tu regardes la télé et tu vas dormir. Cet état-là, c'est ce qu'on appelle un état modifié de conscience, un état d'hypnose. Et en fait, dans cet état-là, on est en hypervigilance, contrairement à ce qu'on croit. Donc, premier mythe, on ne dort jamais en hypnose. On est dans un état, enfin, on est dans nos profondeurs, mais on ne dort pas. D'accord ? Donc, c'est un état modifié de conscience qui est naturel pour l'être humain. En hypnose thérapeutique, il est induit par le thérapeute. D'accord ? Mais le thérapeute ne peut hypnotiser personne si elle n'a pas envie de rentrer dans un état d'hypnose. Donc, tous ceux qui vous disent « slack, slack, tu dors, pendule et tout », c'est avec l'accord de la personne. Donc, si la personne n'est pas d'accord, on ne peut rien faire. Donc, vraiment, il faut qu'on soit OK par rapport à ça. Donc, ça, c'est la première des choses. Après, il y a plusieurs types d'hypnose. On a l'hypnose classique, qui a été, en fait, Mesmer, je pense que c'est quelqu'un qu'on connaît, les gens le connaissent parce qu'il passe beaucoup à la télé. C'est pas lui, le vrai Mesmer, c'est un médecin autrichien qui a créé donc l'hypnose à l'époque, enfin, qui a mis en place, qui a découvert cette capacité du cerveau. Donc, on a l'hypnose classique, on a l'hypnose hellmannienne, donc c'est une sorte d'hypnose directe aussi. Après, on a, par exemple, l'hypnose conversationnelle de Milton Erickson. La différence, c'est quoi? C'est que dans l'hypnose conversationnelle, donc, c'est-à-dire on ramène la personne à un état d'hypnose, mais avec la parole, avec des techniques de conversation, et hop, c'est très métaphorique.
D'accord.
L'hypnose classique, c'est tout de suite, donc, on fait la relaxation, l'induction. Donc, la personne, elle descend en état modifié de conscience. On utilise, donc, il n'y a pas tout ce côté métaphorique. Mais en vrai, il y a aussi l'hypnose humaniste. Donc, c'est vraiment des écoles. Mais ce qu'on doit garder en tête, c'est que l'hypnose est un état naturel du cerveau de l'être humain. Il est utilisé par un technicien, donc l'hypnologue, parce qu'on peut ne pas être malheureusement thérapeute et se former à l'hypnose. Hein, donc c'est tout, enfin c'est 3-4 jours de formation. Oui. C'est vraiment une technique, c'est rien d'exceptionnel. Il n'y a pas de super pouvoir et tout. Donc voilà, il y a pas, de, faut, oui, faut oui, se oui, le oui, dire. Oui. Hein, y a, voilà, non, mais c'est rien du tout. Et donc voilà, la personne, on la met en état d'hypnose pour utilisation. À quoi on va utiliser ça ? Eh bien, l'hypnose est un outil extraordinaire pour lever les blocages de l'inconscient. Pourquoi ? Parce que le cerveau humain ne fait pas la différence entre une situation réelle et une situation imaginaire. Donc, par exemple, on va prendre un exemple comme ça. On va dire que quand tu étais petit à l'école, tu t'es fait harceler. D'accord ? Donc, à un moment, tu vas développer une phobie sociale. Mais pendant la thérapie, en tout cas, moi, c'est comme ça que je travaille. Hein. C'est-à-dire, pour moi, l'hypnose, ce n'est pas un outil à utiliser seul. Ça ne veut rien dire. Il faut que ce soit dans un contexte, dans l'histoire de la personne. Et donc, en thérapie, on travaille, et à un moment, il y a le souvenir qui sort. Parce que des fois, le cerveau, qu'est-ce qu'il fait ? Il va encapsuler. Il va mettre de côté. Mmh. Par contre, tu mets beaucoup d'énergie à mettre ça, à garder ça enfui. Ouais. Et quand on travaille sur soi, il y a la ventilation émotionnelle et des fois, plouc, on a des petites choses qui sortent. Donc, par exemple, on va voir que voilà, il y a le gros souvenir, une grosse charge émotionnelle et tout. Si la personne est prête et s'il y a cette alliance thérapeutique et cette confiance qui est déjà installée entre toi et moi, je vais te demander, je vais te dire, est-ce que tu penses que ça serait OK pour toi si on descend dans un état et on va chercher le petit garçon qui a été traumatisé par ses camarades, blablabla. Si jamais tu es d'accord, on va trouver par exemple une histoire, parce que l'hypnose, c'est vraiment un langage métaphorique. Donc, je vais faire la technique, dérouler un peu la technique. Tu vas descendre en état modifié de conscience, donc tu seras conscient. Et tu vas travailler avec ton imaginaire. Donc moi, je vais induire, donc je vais dire des choses. Et toi, tu vas t'imaginer dans cette salle, tatati, tatata. On peut réécrire l'histoire, on peut utiliser par exemple un écran de cinéma. Ça dépend ce qu'on va faire. Et donc là, en fait, on va réécrire le scénario. Donc toute la perception, toute la neuroception, j'ai envie de dire, de la situation, on va la transformer et on va récupérer des ressources. On va demander à ton inconscient qu'à partir d'aujourd'hui, c'est bon, le petit garçon, il est connecté au grand Samir, il est en sécurité, tatati, tatata, blablabla. On va faire de la programmation parce que là, en état d'hypnose, on a directement accès à l'inconscient. Oui. Et c'est 95% de tes ressources.
Exactement.
Voilà. Et après, on va revenir à l'instant où on est et tout. Et donc là, on a utilisé de l'hypnose pour cette situation-là. Et après, on va voir comment ça va fonctionner.
C'est ça. Parce qu'aussi, il ne faut pas non plus oublier que ce n'est pas forcément le magic bullet.
La baguette magique. Et c'est exactement moi sur quoi je lutte tous les jours.
Ouais. C'est pas je t'hypnose, c'est bon.
C'est bon. Non, non. Il faut plusieurs séances. Il faut voir comment la personne, elle réagit. Et surtout, moi je dis toujours, attention, si j'enlève ça d'ici, où est-ce que je vais le mettre ? Surtout, par exemple, si j'ai un message à passer par rapport à l'hypnose, c'est attention aux addictions et aux fausses promesses des hypnologues, j'ai envie de dire, qui te dit en 2-3 séances, tu vas arrêter de fumer. Effectivement, tu peux. Il peut te dégoûter de la cigarette et tu vas arrêter de fumer. Sauf que, à ce jour, je n'incite pas les gens à fumer, mais on va se le dire, à ce jour, la cigarette, elle a son importance dans ta vie. Parce que peut-être c'est le seul moment où tu vas te retrouver avec, avec ta chérie, où vous allez passer un bon moment. Vous allez
c'est un moment de pause.
Voilà, de pause. De stress. Exactement.
C'est un rituel qui est
C'est un rituel qui est là et qui est nécessaire.
Si
Si
je l'enlève, ça. Et donc, si je vais, tu viens me voir, tu me dis, OK, tu peux me faire pour arrêter là. Je vais te dire, OK, mais moi, je connais ni ton histoire, ni tes fragilités, ni tes challenges. Je me rappelle une fois, une amie à moi, elle passait par une période très compliquée. Et en fait, bon, elle a fait un peu de travail sur elle. Elle me dit, c'est bon, je fais du sport, j'arrête de fumer. Non, n'arrête pas. Fume pour le moment. Il ne faut surtout pas arrêter de fumer. Non, tu ne peux pas agir sur tous les fronts en même temps. Donc, à un moment, ton cerveau, il va disjoncter, il va tout bloquer.
Chaque bataille a son
temps. Donc, l'hypnose, il faut vraiment être conscient. Si j'enlève, la nature a horreur du vide. Le cerveau a horreur du vide. Donc, je peux faire un déplacement. Donc, je ne vais plus fumer, mais je vais me mettre à manger.
Ouais.
Je ne vais plus fumer, mais je vais avoir une addiction, je sais pas, à autre chose. Bah, on n'a rien fait finalement.
Exact.
Et en fait,
on peut empirer.
On
pourrait empirer la situation. On peut pas savoir.
Exactement. Ça peut être extrêmement.
J'aimerais mettre un parallèle par rapport justement au régime qui permet de perdre 20 kilos en un mois. C'est faisable.
Oui.
À quel prix?
Et à 90%, on va reprendre le double
yo-yo.
Après.
Voilà.
On est d'accord. Et si c'était vraiment aussi magique que ça, l'hypnose existe depuis des siècles.
Ouais. C'est adapté dans le monde, c'est réglé.
Exactement. Ça nous aide à dépasser des obstacles. C'est un outil très puissant.
Exactement.
Mais quand il est utilisé d'une manière écologique, et surtout, où il y a l'engagement de la personne.
Ouais.
Tu as dit, ce n'est pas la baguette magique et ce n'est pas l'hypnose qui va te faire. Non. Il faut que ça soit inscrit dans un processus.
Exact.
Voilà.
Merci beaucoup pour
Avec
toutes
plaisir.
Ces explications. Donc, ça, c'était l'hypnose. Et là, j'ai couvert tout ce qu'on avait discuté au début. Mmh. Maintenant, j'aimerais aller dans d'autres sujets qui sont, on va dire, limitrophes. Et ça, c'est plus ce qui se passe actuellement dans les domaines de la psychologie et de la santé mentale en général que je suis en train de voir, qui se développe énormément aux États-Unis, qui sont l'utilisation de certaines drogues.
Oui.
Alors, donc, on a la légalisation du marijuana un peu partout dans le monde qui commence à avancer. Ça a certaines vertus thérapeutiques, etc. Mm-hmm. Mais ce qui m'intéresse en ce moment, c'est les champignons.
Ouais, la psilocybine.
Psilocybine en anglais,
ouais.
Voilà.
L'ayahuasca.
DMT, donc la molécule qui existe.
Bref. LSD.
Les LSD
aussi.
Ah,
oui, mais aussi. C'est pas de les champignons, mais bon.
Non, LSD, ouais. C'est un truc particulier, donc qui a certains effets. Tu as le DMT, qui est une autre molécule qui existe naturellement dans notre corps. Bref. Tout ça. Bon, on va juste se rappeler qu'on est en Algérie, que tout ça c'est illégal.
C'est illégal,
pas
bien
du
sûr.
Tout y toucher, même avec un truc de loin comme ça,
non.
C'est pas possible. Mais qu'est-ce que tu sais de ça et qu'est-ce que tu pourrais recommander à des gens qui pourraient en avoir besoin? Alors, comment tu vois
Alors,
ça évoluer?
C'est intéressant que tu parles de ça, Samir. Ça se voit que t'es connecté à ce qui se passe ailleurs. Parce qu'en fait, récemment, avec les 5 dernières années, je pense que la Covid-19, elle a un peu... figure-toi qu'il y a 2-3 laboratoires en Allemagne, en Suisse et aux États-Unis, MIT, je crois, ils sont en train de travailler sur le LSD. Pourquoi ? Parce que, en fait, il a été prouvé scientifiquement que, bien sûr, sous psychothérapie très particulière et suivi médical rigoureux, l'administration du LSD en une ou deux prises donnait des résultats extraordinaires sur des dépressions résistantes, c'est-à-dire qui duraient des années. Et ça, c'est extraordinaire parce qu'en fait, c'est l'effondrement de l'ego. Bon, peut-être que là, ce que je vais dire, ça ne va pas parler à tout le monde, mais c'est un état, enfin, je n'ai pas envie de dire d'illumination, mais en tout cas, les personnes les témoignages, parce que je suis très connectée à ça, je vois beaucoup, enfin, je me documente beaucoup sur ça. Et en fait, ils disent qu'ils sont, parce que des fois, ça dure une journée, deux jours complètes, hein, ils sont en observation et tout. Et donc, la dissolution de l'ego va faire que quand ils vont revenir, eh ben, il va y avoir toutes les peurs qui ont explosé, les phobies, les blocages, et donc plus de dépression.
Alors, l'une des explications que j'ai adorée par rapport à ça et qui m'a permis de mieux visualiser dans ma tête, parce que l'un des trucs qui m'a toujours perturbé, c'est comment est-ce que quelqu'un peut halluciner. Bon, je comprends ça conceptuellement, c'est-à-dire que c'est chimique dans la tête, etc. Tu dis, effectivement, ta perception, c'est comment ton cerveau interprète les signaux qui arrivent dedans.
Ouais.
Si tu fais des trucs bizarres, tu as les signaux, tu as des résultats bizarres, c'est normal. Mais un jour, j'aimerais bien avoir cette expérience pour voir qu'est-ce que ça fait pour de vrai.
On est deux.
Voilà, c'est par curiosité scientifique pure.
Complètement.
Parce que je vois, comment est-ce que je peux voir un éléphant rose ou la pièce se déformer, etc. Bref. Donc, ça, c'est de côté. L'autre côté, c'est... Donc, ils ont expliqué, et tout à l'heure, tu avais touché à ça, justement, notre cerveau filtre 95% des choses pour pouvoir agir de manière automatique.
Restez fonctionnel.
Je suis en train de bouger mon bras. Tu te rends compte du nombre de muscles que je dois utiliser pour pouvoir faire ça. Ça vient de le bras, avec la posture, tout ça. Mon cœur qui bat tout seul, ma respiration qui fonctionne tout seul, mes organes
tout
internes.
Tout ton système autonome.
Si je devais réfléchir à chaque détail, ce serait...
C'est
pas gérable. Ça, c'est un. Deux, notre perception à travers nos sens. Je viens de prendre juste la vision. Je me concentre que sur toi. J'ai ma vision périphérique, mais mon cerveau, il dit tout ça, ça sert à rien, c'est de la merde. Concentre-toi sur la personne avec qui tu es en train de parler. Donc, s'il y a quelque chose qui bouge sur le côté, mon attention va être attirée. Donc là, heureusement, il est dans une pièce.
Mais ton cerveau, il a capté l'information.
Il a capté l'information. Il y a un bruit qui vient de se passer par là-bas. Il y a une voiture qui vient de passer par là, etc. Donc, tout ça, c'est des informations qui arrivent. Et justement, quand tu vois comment certains cerveaux, t'as certains autistes fonctionnent, tu vois, certains filtres n'existent pas dans leur cerveau et c'est ça qui leur permet d'avoir certaines capacités que nous, on n'a pas ou de ne pas avoir certaines capacités que nous, on a. Et apparemment, Hadoma, le DMT, justement, ce qu'il fait, c'est qu'il casse tous ces filtres d'un coup et tu as toutes les perceptions qui arrivent d'un seul coup à ton cerveau. C'est overwhelming, donc je ne sais plus comment dire en français, mais c'est trop pour toi. Et du coup, ton cerveau, il part dans des... Et c'est ça qui fait le côté psychédélique. De ce que j'ai appris, la beauté de cette molécule DMT, c'est que comme c'est une molécule qui naturellement existe dans notre cerveau, le fait de l'avoir, surtout avec la plante ayahuasca, donc sous utilisation avec des chamans, des professionnels du truc, etc., des gens qui savent ce qu'ils font depuis très très longtemps, donc la molécule se dissipe de ton corps en moins de 30 minutes.
Tout à fait.
Et donc tu n'as pas d'effet négatif non plus avec.
Il n'y a aucune accoutumance.
Exactement. Et là, tu as parlé, toi, du LSD avec certains tests, et de plus en plus que ce soit avec le LSD, avec DMT, DMT, non, DMT, c'est un cannabis.
Franchement, cette molécule...
TFT, non, TFT dans le cannabis.
D'accord.
Les acronymes, il y en a trop.
Il
y en a beaucoup de ces molécules qui sont, ils font des tests avec des microdoses.
Oui.
Donc, pour pouvoir en consommer tout le temps, mais genre, au lieu de prendre... Je vais prendre l'exemple d'un paracétamol, par exemple. Mmh. Paracétamol, 1 gramme, c'est la dose que tu peux prendre deux fois par jour, si je me rappelle bien.
Tout à fait.
Mais imagine si on te donnait 0,1 gramme. Mmh. Et ça, tu peux le prendre tout au long de la journée, dilué dans de l'eau ou dans la bouffe, etc. Mais quand on parle de molécules super puissantes comme LSD ou l'adrénaline, donc en microdose, tu sens aucun effet, mais la molécule est là. Et le cumul, tu as les effets, tu as les microdoses gaïtiques, fait que ça agit quand même tout sur le cerveau, sans avoir d'hallucination, sans avoir gardé les effets, tu as la drogue en elle-même. Mais tu as tous les bienfaits sur ta psyché.
Et c'est ça. Je pense que, enfin, de toute façon, c'est pas que, enfin, je pense pas, c'est ce que j'ai entendu dans tous les psychiatres et les psychologues qui travaillent sur les chercheurs. Ils disent que ça va être régulé dans le domaine médical d'ici 5 ans maximum, en tout cas en France, 3-5 ans, parce que vraiment, c'est des avancées thérapeutiques qui vont faire gagner à l'État
beaucoup d'argent,
parce que la santé mentale, tu sais que les États-Unis, je n'ai pas le chiffre en tête, mais c'est le premier pays consommateur de psychotropes.
Ah oui, de
c'est
très
des
loin.
Milliards de dollars.
De très, très loin. Mais eux, c'est un autre problème. Ils sont allés dans l'exagération dans l'autre sens.
Anyway, mais en tout cas, ça reste vraiment des budgets colossaux par
c'est
rapport
ça.
À... Et donc, je pense que... Et puis, si ça permet à l'être humain de s'apaiser en deux, trois prises, franchement, je pense que... Voilà, merci les champignons et le LSD.
Merci la nature.
Merci la nature.
C'est bien fait, finalement.
Oui. Et bien même ceux qui sont en Amazonie, finalement, ils avaient découvert ça, ça fait longtemps.
C'est ça, mais justement, c'est pour ça que je t'ai parlé de chaman, parce qu'en général, c'est des chamans qui ont étudié ça, plus de la médecine moderne, mais ils te font toujours les rituels traditionnels parce que ça te met... Un peu dans un état d'hypnose.
C'est ça, c'est des trans hypnotiques.
Exactement.
Et bien sûr, et ça prend sens aussi. Parce que le cerveau, notre cortex singulaire, il a besoin de sens.
Ouais.
Mais s'il n'y a pas de sens, tu ne pourras pas intégrer. Il peut y avoir ce qu'on appelle les phénomènes de dissociation. Et phénomène de dissociation, c'est l'effondrement de la structure psychique. Donc, c'est important aussi qu'il y ait du sens autour de ça. Je ne me rappelle plus, mais... Il y avait quelqu'un qui avait découvert quelque chose sous l'effet de l'LSD.
Oui, je sais exactement de qui tu parles.
Je crois Pfizer, il y a un truc...
C'était les années 70.
Exact, et c'est après...
C'était l'époque hippie, etc.
Voilà,
grâce à ça, ils ont découvert des trucs super intègres, mais en contrepartie, l'État a réagi d'une manière extraordinaire pour éliminer justement les hippies.
Voilà.
Et c'est ce qui a fait que plus personne n'a touché aux psychotropes pendant très très longtemps et aucune recherche n'a été faite parce qu'ils avaient peur
de toucher à ça. Ils avaient tout de suite bloqué parce que ça faisait... Par rapport au truc
politico,
machin. Mais en vrai, c'est parce que c'est un état de conscience.
Altéré.
Pas altéré, parce que la supraconscience, voilà. C'est ça, en fait. C'est qu'on dit que c'est un état altéré, mais en vrai, on est en supraconscience.
Pour moi, altéré, c'est juste dans le sens où ce n'est plus ta conscience standard.
C'est pas
tu arrives
normal,
dans un état on peut appeler ça secondaire, ultra altéré, super altéré. Bref, c'est un état de conscience que tu n'as pas normalement.
Normalement, voilà.
Et qui te donne accès à d'autres perceptions.
D'autres connaissances et d'autres perceptions et d'autres pouvoirs.
C'est ça, parce que connaissance, je ne sais pas si ça donne accès à des connaissances.
En tout cas, tu captes.
Tu captes.
Voilà.
Très bien. Donc, j'ai adoré. Cette conversation.
Ben, merci. Pareil.
J'espère qu'on pourra refaire des trucs comme ça.
Et quand tu veux.
Si tu veux lancer ton podcast, tu me dis.
Ça marche.
Je te fais tout ce que tu veux par rapport à ça.
Super. Ben, merci beaucoup.
Merci à toi.
C'est moi.
J'espère. Pour tout le monde, si vous voulez la retrouver, tous les liens sont dans la description. Vous pourrez la trouver. Donc, tu es sur Instagram.
C'est tout.
Juste Instagram. On va changer ça. T'inquiète pas. Donc, vous pouvez la retrouver sur Instagram. Donc, c'est
Sabrina psychoneurocoach.
Le lien est là. Si vous voulez lui laisser des messages ou la suivre ou lui poser des questions, elle se fera un grand plaisir de vous répondre. Si vous avez des questions à me poser à moi par rapport à d'autres trucs qui ne sont pas psychologiques parce que ce n'est pas mon métier du tout, vous me les posez aussi dans les commentaires. Et regardez comme ça. Ciao.